messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel qui vous a été lancé pour venir à cette réunion. Si j'accepte aussi les invitations qui me sont faites pour les cérémonies religieuses et pour ces conférences, ce n'est pas du tout pour me faire connaître personnellement, ni dans un but de propagande quelconque, et surtout pas de propagande politique, mais uniquement pour la Sainte Église, catholique et romaine, pour l'édification de l'Église, pour le maintien de la foi catholique, pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour autre chose que je me déplace, non seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. Et je suis heureux de constater que dans le monde entier, dans le monde catholique, partout, des personnes courageuses se réunissent autour des prêtres fidèles à la foi catholique et à l'Église catholique pour maintenir la tradition qui est le rempart de notre foi et la protection de notre foi catholique. S'il y a un mouvement aussi général que celui-là, c'est que la situation dans l'Église est vraiment grave. Car pour que des prêtres, des catholiques, semblent être des désobéissants, acceptent d'être traités de rebelles, de dissidents, de désobéissants, alors qu'il s'agit de bons prêtres, de vrais prêtres, dont certains ont déjà servi dans des paroisses pendant 30 ans, 40 ans, d'une manière fidèle, à la grande satisfaction de tous leurs paroissiens. S'ils ont choisi d'être traités de désobéissants et de dissidents pour maintenir la foi catholique, ils le font consciemment et dans l'esprit des martyrs. Être martyrisé par ses frères ou être martyrisé par les ennemis de l'Église, quelle que soit la main qui frappe, pourvu que ce soit pour défendre, pourvu que ce soit contre le maintien de la foi, c'est un subir un martyr. Ces prêtres, ces fidèles, sont des témoins de la foi catholique. Et ils préfèrent être considérés comme des rebelles et des dissidents plutôt que de perdre leur foi. Nous assistons donc, dans le monde entier, à une situation tragique, extraordinaire, inouïe, qui semble ne s'être jamais produite dans l'histoire de l'Église. Alors, il nous faut tout de même bien essayer d'expliquer ce phénomène extraordinaire. Comment se fait-il que de bons fidèles, de bons prêtres, s'efforcent de maintenir la foi catholique dans un monde catholique qui est en pleine dissolution? C'est le pape Paul VI lui-même qui a parlé d'autodémolition de l'Église. Il a dit « Nous assistons à l'autodémolition de l'Église ». Que signifie ce terme d'autodémolition? Sinon que l'Église se détruit elle-même, par elle-même, et donc par ses propres membres. Et c'est déjà ce que disait le pape Saint Pie X dans sa première encyclique, lorsqu'il disait « Désormais, l'ennemi de l'Église n'est plus à l'extérieur de l'Église, il est à l'intérieur ». Et le pape Saint Pie X n'hésitait pas à désigner les endroits où il se trouvait. Il dit explicitement, l'ennemi se trouve dans les séminaires. Par conséquent, au début du siècle, déjà, le Saint pape Pie X, dans sa première encyclique, dénonçait la présence des ennemis de l'Église dans les séminaires. Et il est évident que ces séminaristes qui étaient imbus du modernisme, du sionisme, du progressisme sont devenus prêtres. Beaucoup d'entre eux sont devenus prêtres. Certains d'entre eux sont devenus évêques. Et certains parmi ces évêques sont devenus cardinaux. On pourrait citer des noms de ceux qui ont fait leur séminaire au début de ce siècle, qui sont morts maintenant, mais dont l'esprit était un esprit moderniste et progressiste. Ainsi, déjà, le pape Pie X dénonçait cette division dans l'Église. Une certaine rupture à l'intérieur même de l'Église et dans le clergé. Or, je ne suis plus jeune et j'ai eu l'occasion au cours de ma vie de séminariste et de ma vie sacerdotale et de ma vie épiscopale de constater cette division. Déjà au séminaire, j'étais au séminaire français à Rome pour faire mes études, par la grâce du bon Dieu. J'avoue que je n'étais pas très attiré par les études faites à Rome, mais j'aurais préféré personnellement être comme les simples séminaires, les séminaristes de mon diocèse, me trouver tout simplement dans le séminaire de Lille et faire mes études et devenir petit vicaire et puis ensuite un petit curé dans une paroisse de campagne, c'était mon idéal. Maintenir la foi dans une paroisse, je me voyais un peu père spirituel d'une population à laquelle on s'attache pour lui inculquer la foi et les mœurs chrétiennes. C'était mon idéal. Or, il se faisait que mon frère se trouvait déjà, après la guerre de 14-18, se trouvait déjà à Rome, puisqu'il avait été séparé par les circonstances de la guerre de la famille dans le nord de la France. Et par conséquent, mes parents ont insisté pour que j'aille tout simplement rejoindre mon frère. Puisque ton frère est déjà à Rome au séminaire français, va donc le rejoindre et faire tes études avec lui. Et je suis parti. Je suis parti à Rome, séminaire français. J'ai fait mes études à l'université grégorienne depuis 1923 jusqu'à 1930. J'ai été ordonné en 1929 et je suis resté comme prêtre au séminaire français pendant un an. Or, pendant 16 années de séminaire, se sont passées des choses tragiques, tragiques, qui me rappellent exactement tout ce que j'ai vécu maintenant et tout ce que je vis depuis le concile. Je me trouve pratiquement dans la même situation que se trouvait notre supérieur de séminaire à ce moment-là, le père Le Floch. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du révérend père Le Floch, supérieur du séminaire français pendant près de 30 ans. Le père Le Floch était un homme très digne, un breton, fort et ferme dans sa foi comme le granit de Bretagne, et qui nous apprenait les encycliques des papes, et qui nous apprenait ce qu'était le modernisme condamné par Saint Pie X, qui nous apprenait ce qu'étaient les erreurs modernes condamnées par Léon XIII, qui nous apprenait ce que c'était que le libéralisme condamné par Pie IX. Et nous aimions notre père Le Floch, nous y étions très attachés. Mais sa fermeté dans la doctrine, dans la tradition, déplaisait aux progressistes, évidemment, et il y avait déjà des progressistes de ce temps, puisque les papes les condamnaient, et déplaisait non seulement aux progressistes, mais au gouvernement français. Le gouvernement français avait peur que par l'intermédiaire du père Le Floch et par cette formation donnée aux séminaristes du séminaire français, des évêques traditionnalistes viennent s'implanter en France et donnent à l'Église de France un climat traditionnel et un climat évidemment antilibéral. Or, le gouvernement français était maçonnique et par conséquent libéral, fondamentalement libéral, et a été effrayé à la pensée que des évêques non libéraux pouvaient prendre tous les postes les plus importants en France. Et alors il a fallu faire des pressions, déjà à ce temps-là, auprès du pape, pour détrôner le père Le Floch. C'est Francisque Gay qui a été chargé de cette opération. Et Francisque Gay est descendu à Rome et est allé faire pression sur le pape lui-même, sur le pape Pion, dénonçant le père Le Floch, soi-disant ami de l'Action française, homme politique, apprenant aux séminaristes, aux séminaires français, à être des membres de l'Action française et tout ça. Des mensonges. J'ai entendu le père Le Floch pendant 3 ans dans ses conférences spirituelles. Il ne nous a jamais parlé de l'Action française. De même qu'on me dit, moi, maintenant, vous étiez autrefois membre de l'Action française. Je n'ai jamais été membre de l'Action française. Évidemment, nous sommes des membres de l'Action française, nous sommes des nazistes, nous sommes des fascistes, nous sommes tout ce qu'on peut nous donner comme étiquette, évidemment, anti-révolutionnaire et anti-libéraux. Alors, l'enquête a été faite. Le cardinal Schuster, du diocèse de Milan, a été envoyé sur place. Ce n'est pas le moindre des cardinaux, cardinal bénédictin Schuster, homme d'une grande sainteté et d'une grande intelligence, était désigné par le pape Pion pour faire une enquête au séminaire français pour voir si ce que disait Francisque D était exact ou non. L'enquête a eu lieu. Le résultat a été Le séminaire français marche parfaitement bien sous la direction du père Le Floch. Nous n'avons absolument rien à reprocher aux supérieurs du séminaire français. Eh bien, ça n'a pas suffi. 3 mois après, nouvelle enquête, avec cette fois l'ordre d'en finir avec le père Le Floch. L'enquête, nouvelle enquête, faite par un membre des congrégations romaines, est venue et on a conclu que, en effet, le père Le Floch était ami d'Action française, qu'il était dangereux pour le séminaire et qu'il fallait lui demander sa démission, ce qui a été fait. En 1926, le Saint-Siège a demandé au père Le Floch de bien vouloir quitter la direction du séminaire français. Nous étions navrés. Le père Le Floch n'a jamais été un homme politique. Le père Le Floch était un homme traditionnel. Le père Le Floch était un homme qui était attaché à la doctrine du Saint-Siège, à la doctrine des papes. C'était un grand ami du pape Pie X, qui avait une immense confiance dans ce père Le Floch. Et précisément parce qu'il était ami du pape Pie X, alors il était l'ennemi des progressistes, évidemment. Et puis non seulement le père Le Floch, en cette époque-là, pendant que j'étais au séminaire, non seulement le père Le Floch a été attaqué, mais le cardinal Billot. Parce que le cardinal Billot, dans ses écrits théologiques de première valeur, le cardinal Billot est un théologien encore maintenant très réputé dans les séminaires traditionnels et dans nos séminaires. C'est un éminent théologien, cardinal de la Sainte Église. Le cardinal Billot a été déposé, on lui a enlevé la pourpre, envoyé en pénitence à Albano, tout près d'Albano, à Castel Gandolfo même. Dans la maison des Jésuites, avec interdiction de sortir, sous prétexte qu'il avait des liaisons avec l'Action française. Le cardinal Billot, de fait, n'était pas, on peut dire, Action française, mais estimait la personne de Maurras, et avait cité dans ses livres de théologie, si vous lisez par exemple le second livre de l'Église d'Ecclésia du cardinal Billot, vous trouverez en effet toute une étude sur le libéralisme, et à l'occasion de cette étude sur le libéralisme, magnifique étude sur le libéralisme du cardinal Billot, vous trouverez des citations en notes de Maurras. Alors, c'était un péché mortel. Et il fallait donc, ils ont trouvé cela pour être une occasion pour faire déposer le cardinal Billot. Imaginez, ce n'est pas une petite chose. Un des plus grands théologiens de son époque, déposé comme cardinal, réduit à l'état de simple prêtre, car il n'était pas évêque. À ce moment-là, il y avait encore des cardinaux, diacres. Et donc, il était prêtre, bien sûr, mais il n'était pas évêque. Et donc, il était réduit à l'état simplement sacerdotal, n'était plus cardinal, uniquement à cause de ça. Déjà, la persécution. Le pape Pie XI a subi l'influence de ces progressistes qui déjà se trouvaient présents à Rome. Et nous voyons là, précisément, une certaine différence entre les papes qui se sont succédés. Et pourtant, à cette époque-là, le pape Pie XI a fait des encycliques magnifiques, magnifiques. Ce n'était pas un libéral, le cardinal, le pape Pie XI. Son encyclique contre le communisme, Divini Redemptoris, son encyclique sur le Christ-Roi, magnifique, instaurant la fête du Christ-Roi, donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Son encyclique sur l'éducation chrétienne, absolument admirable, qui est encore aujourd'hui un document fondamental pour tous ceux qui veulent défendre l'école catholique. On peut se référer à cette magnifique encyclique du pape Pie XI. Donc, dans la doctrine, le pape Pie XI est un homme admirable, mais faible sur le point de l'action pratique, influençable. Vous savez qu'il a été très influencé aussi pour la question de la guerre du Mexique. Et ma foi, là, il a donné l'ordre aux guérilleros aux cristeros du Christ-Roi, ceux qui défendaient la religion catholique au Mexique. Il leur a demandé de faire confiance au gouvernement et de déposer les armes. Et dès qu'ils ont déposé les armes, le gouvernement les a tous massacrés. C'était un massacre épouvantable au Mexique, s'en souviennent encore. Le pape a été trompé. Il a fait confiance au gouvernement. Le gouvernement l'a trompé. Le pape a été évidemment désolé après de ce qui s'est passé. N'imaginez pas qu'un gouvernement qui lui avait promis de traiter ceux qui défendaient leur foi avec honneur, les aient tous massacrés ensuite. C'est des milliers de Mexicains qui ont été massacrés à cause de leur foi. Vous voyez que déjà, donc, au début du siècle, nous nous trouvons dans certaines situations qui annonce, je dirais, une certaine division dans l'Église. Il y avait une division. Et nous nous trouvons à ce moment-là où nous arrivons, lentement mais sûrement, au Concile, à la veille du Concile. Le pape Pie XII a été un grand pape, aussi bien dans ses écrits que dans sa manière de conduire l'Église. Et du temps de Pie XII, donc, je dirais que la foi était bien fermement maintenue et que les progressistes n'aimaient pas beaucoup Pie XII, parce qu'il rappelait les principes fondamentaux de la théologie et de la vérité de l'Église. Alors est venu Jean XXIII. Jean XXIII, que lui, n'avait pas du tout le tempérament et le caractère de Pie XII. Jean XXIII était un homme très simple, très familier, qui ne voyait de problème nulle part. Il n'avait jamais de problème. Quand il a voulu faire son synode à Rome, on lui a dit, mais très Saint-Père, ça se prépare un synode. Il faut au moins un an, peut-être 2 ans pour préparer le synode, afin que les fruits soient nombreux et que les réformes puissent être vraiment étudiées et ensuite appliquées pour que votre diocèse de Rome puisse profiter de cette réforme. Ça ne peut pas se faire comme ça en l'espace de 2 ou 3 mois et puis 15 jours de réunion et tout ira bien, c'est pas possible. Oh si si, non, je connais, je sais, non, on va faire un petit synode, non, on va préparer ça dans quelques mois et puis on va faire un petit synode, tout ira très bien. On va préparer le synode. Rapidement, commission à Rome, tout le monde s'affaire pour préparer le synode. 15 jours de synode, et puis tout était fini. Le pape Jean XXIII très content, son petit synode qui a été fait. Résultat nul. Rien n'a changé dans le diocèse de Rome. La situation est restée exactement la même. Rien changé du tout. Et là, c'était la même chose pour le concile. Il a dit, j'ai l'intention de faire un concile. Il n'avait pas été le premier. Déjà, Pie XII avait été sollicité par certains cardinaux pour faire un concile. Mais il avait dit non, je crois que c'est impossible. On ne peut pas, à notre époque, faire un concile avec 2500 évêques. Et puis avec les moyens de communication sociale actuellement, les pressions qu'on peut subir par les moyens de communication sociale sont trop dangereux pour qu'on puisse faire un concile maintenant. On risque d'être débordé. Et alors, il n'avait pas fait le concile. Mais le pape Jean XXIII a dit, mais si, mais il ne faut pas être pessimiste. Il faut voir les choses avec confiance et tout ça. On va faire un petit concile. On va se réunir pendant 3 mois. Tous les évêques du monde entier vont se réunir. Et puis, on commence au mois d'octobre, le 13 octobre. Et puis, vers le 8 décembre, entre le 8 décembre et le 20 janvier, tout est fini. Tout le monde s'embrasse, on retourne chez soi. Et on a fini le concile. Voilà, pas plus que ça. Et le pape a lancé le concile. Pour lancer le concile, il a fallu préparer quand même. Un concile, ça ne se passe quand même pas comme un synode, déjà. Alors, il a fallu quand même préparer 2 ans avant. Et j'ai personnellement été nommé comme membre de la commission centrale préparatoire du concile, comme archevêque de Dakar et président de la conférence épiscopale de l'Ouest africain. Je suis donc venu à Rome pendant 2 ans, au moins 10 fois, en réunion pour cette commission centrale préparatoire du concile. Commission centrale qui était vraiment très, très importante, puisque c'est à elle que tous les documents des commissions secondaires venaient pour être étudiés et pour être soumis au concile. Il y avait dans cette commission 70 cardinaux et une 20aine d'archevêques et d'évêques, plus les experts, mais les experts n'étaient pas membres de la commission centrale, ils étaient simplement là comme experts pour être interrogés éventuellement par les membres. Or, pendant ces 2 années, les réunions se sont succédées et il était clair pour tous les membres qui étaient là présents qu'il y avait une division profonde à l'intérieur de l'Église. Une division profonde, pas accidentelle, pas superficielle. Division profonde entre les cardinaux, plus encore qu'entre les archevêques et évêques qui étaient là. Parce que à l'occasion des votes qui étaient faits, eh bien, on voyait les cardinaux conservateurs qui votaient d'une manière et les cardinaux progressistes qui votaient de l'autre manière. Et tous les votes étaient toujours à peu près dans le même sens. C'est clair qu'il y avait une division réelle entre les cardinaux. Et je vous cite par exemple ce petit incident dont je vous ai déjà parlé, que vous avez peut-être déjà lu dans mes livres, dans le livre « Un évêque parle ». J'en ai souvent parlé parce qu'il caractérise vraiment la fin de cette commission centrale et le début du concile. C'était la dernière séance. Nous avions reçu peu de temps auparavant deux documents sur le même sujet. Le cardinal Béat avait préparé un document « De libertate religiosa », de la liberté religieuse. Le cardinal Ottaviani en avait préparé un autre, « De tolerantia religiosa », de la tolérance religieuse. Sur le même sujet, déjà les deux titres étaient significatifs. Significatifs de deux conceptions différentes du même sujet. Et ça n'a pas manqué, je me demandais comment ça allait se faire. Les deux thèses étaient différentes. Les uns qui parlaient de la liberté de toutes les religions, cardinal Béat, et l'autre qui parlait de la liberté de la religion catholique et de la tolérance de l'erreur, la tolérance des fausses religions. Alors, comment ça allait s'arranger dans la commission? Ça m'est arrivé en commission. Et dès le début, le cardinal Ottaviani a pointé le doigt sur le cardinal Béat et lui a dit « Éminence, vous n'aviez pas le droit de faire ce schéma, de faire ce document. » Le cardinal Béat répond « Pardon, j'avais parfaitement le droit de faire ce document comme président de la commission de l'unité. Et par conséquent, j'ai fait ce document consciemment. Et d'ailleurs, dit le cardinal Béat, je suis radicalement opposé à votre thèse. » Deux cardinaux, les plus éminents, cardinal Ottaviani, préfet de la congrégation du Saint-Office à ce moment-là, et le cardinal Béat, confesseur du pape Pie XII, jésuite, ayant une très grande influence sur tous les cardinaux, qui était bien connu dans l'Institut biblique, qui avait fait des études bibliques tout à fait supérieures, donc deux personnalités éminentes, qui s'oppose pour une thèse qui est une thèse fondamentale dans l'Église. Fondamentale. Parce que autre chose est la liberté de toutes les religions, c'est-à-dire de la vérité et de l'erreur. On met sur le même pied la vérité et l'erreur. Et puis de l'autre côté, la liberté de la religion catholique et la tolérance des erreurs. Tout à fait différent. L'Église, traditionnellement, a toujours été pour la thèse du cardinal Ottaviani. Jamais pour la thèse du cardinal Béat, c'était la thèse tout à fait libérale. Alors, le cardinal Ruffini de Palerme s'est levé, et puis il a dit, nous nous trouvons devant deux confrères qui sont opposés l'un à l'autre sur une question très, très importante dans l'Église, nous allons être obligés d'en référer à l'autorité supérieure. Habituellement, et très souvent du moins, le pape venait présider nos réunions. Le pape Jean XXIII venait présider nos réunions. Et là, il n'était pas là, cette dernière réunion. Mais alors, on a voulu, les cardinaux ont demandé quand même de voter. Ils ont dit, ah, on ne veut pas attendre d'aller voir le Saint-Père pour dire, nous voulons voter. Alors, on a fait un vote. C'est clair. Il y a eu une moitié des cardinaux, à peu près, qui ont voté en faveur de la thèse du cardinal Béat, et l'autre moitié qui ont voté pour la thèse du cardinal Ottaviani. C'était clair. Or, tous les cardinaux qui auraient voté pour le cardinal Béat étaient, comme vous le pensez, cardinal de Hollande, d'Allemagne, de France, d'Autriche, et tous ceux, en général, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Et puis, les cardinaux traditionnels étaient ceux de la Curie romaine, qui était à Rome, et puis tous ceux, en général, de l'Amérique du Sud, et les cardinaux espagnols, en général. De langue espagnole. Alors, une véritable opposition dans l'Église, une véritable rupture dans l'Église. Je me suis demandé à ce moment-là comment le concile allait se passer avec des oppositions semblables sur des thèses aussi importantes. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va l'emporter? Est-ce que c'est le cardinal Ottaviani qui va l'emporter avec tous les cardinaux de langue espagnole et de langue latine? Et puis, ou bien ça va être les cardinaux européens et les cardinaux de l'Amérique du Nord? Et en effet, la lutte a commencé immédiatement à l'intérieur des conseils. Ça n'a pas été long. Dès les premiers jours, cardinal Liénard s'est levé et s'est opposé à la nomination des membres des commissions qui étaient présentés par le cardinal Ottaviani. Le cardinal Ottaviani avait présenté la liste des membres de ceux qui faisaient partie des commissions préparatoires du concile, en laissant la pleine liberté à chacun de choisir ce qu'il voulait. Mais étant donné que nous ne nous connaissions pas, nous arrivions là, chacun de notre diocèse, et nous, 2500, comment voulez-vous connaître les 2500 évêques du monde? On nous demande de voter pour former les membres des commissions, du concile. Qui mettre? Connaissions pas les évêques de, c'est pas moi, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, ou de l'Afrique du Sud, ou des Indes et tout ça, ne les connaissions pas. Alors, le cardinal Ottaviani avait pensé, Rome a déjà fait un choix pour toutes les commissions préparatoires, ça pourrait être un renseignement pour les membres du concile. C'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Le cardinal Lujanar s'est levé, poussé aussi par le cardinal Frings, de Cologne, et a dit non, nous n'acceptons pas cette manière de faire. Nous demandons 48 heures de réflexion afin de connaître mieux ceux qui pourraient faire partie des différentes commissions. Nous voulons pas, c'est une pression qui est exercée sur la mentalité des pères, nous n'acceptons pas ça. Après deux jours, que s'il avait commencé deux jours, déjà, affrontement violent entre des cardinaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 48 heures, eh bien, les cardinaux libéraux avaient déjà préparé des listes toutes faites, panachées de tous les pays du monde entier, et ils ont mis ça dans les boîtes aux lettres de tous les pères du concile. Donc nous avons tous reçu une liste de tous les pays pour proposer membres de telle commission, un tel, de différents pays, un tel, différents pays. Beaucoup ont dit, oh, après tout, pourquoi pas? Bon, je ne connais pas, puisque la liste est déjà toute prête, ben, il n'y a qu'à s'en servir, il n'y a qu'à la prendre. Et ce sont les listes des libéraux qui ont passé. 48 heures après, c'est la liste des libéraux qui est passée. Mais elle est passée pas aux deux tiers des voix. Or, dans le règlement du concile, il était marqué qu'il fallait les deux tiers des voix pour les membres des commissions. Alors, qu'allait faire le pape, pape Jean XXIII? Allait-il changer le règlement du concile, faire une exception au règlement du concile ou l'appliquer? Évidemment, les cardinaux libéraux ont eu peur et sont précipités chez le pape Jean XXIII et ont dit, écoutez, quand même, on a plus de la moitié des voix, presque 60%. Alors, quand même, vous ne pouvez pas refuser ça. Il faut faire une exception au règlement. On ne va pas maintenant refaire encore des élections, on n'en finira jamais. C'est bien, ça montre bien, ça manifeste bien la majorité du concile. Il n'y a qu'à accepter ça. Et le pape Jean XXIII a accepté. Alors, dès le début, tous les membres des commissions du concile ont été nommés par la fraction libérale. Imaginez l'influence que ça pouvait avoir dans le concile. Énorme, énorme. Eh bien, je suis sûr que le pape Jean XXIII est mort prématurément de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entrevu du concile. Lui qui pensait qu'au bout de quelques mois, tout serait fini, un concile de 3 mois, on s'embrasse et tout le monde s'en va de chez soi, heureux et content de s'être rencontré à Rome et d'avoir fait une bonne petite réunion. Il a découvert que le concile était un monde pour lui et un endroit où il y aurait des échauffourées. Rien n'est sorti de la première session du concile. On n'a pas réussi à sortir un texte de la première session du concile. Le pape Jean XXIII en a été bouleversé et je suis persuadé que ça a hâté sa mort. Il paraît d'ailleurs que sur son lit de mort, il a dit « Arrêtez le concile, arrêtez le concile. » Est venu le pape Paul VI, et il est évident que le pape Paul VI a donné son appui à la fraction libérale. Comment cela? Eh bien, c'est simple. Dès le début de son pontificat, et dès la deuxième session du concile, il a nommé immédiatement 4 modérateurs du concile. Alors qu'il y avait les 10 présidents qui, pendant la première session du concile, ont présidé le concile. Chacun d'entre eux prenait une séance. L'un présidait une séance, puis le deuxième, puis le troisième. Enfin, sur les 10, ils étaient à une table spéciale, une table plus élevée que les autres. Ils dirigeaient le concile. Le pape Paul VI a immédiatement nommé 4 modérateurs du concile qui, pratiquement, ont présidé le concile. Les présidents sont devenus des présidents d'honneur. Et puis, les 4 modérateurs ont été les véritables présidents du concile. Or, quels étaient ces présidents du concile, ces modérateurs du concile? Le cardinal Döpfner, de Munich, très progressiste, très très progressiste, très œcuméniste. Le cardinal Swenens, je pense que tout le monde le connaît, avec son charismatisme, ce charismatique, et puis en faveur du mariage des prêtres. Il est venu ici au Canada faire des conférences en faveur du mariage des prêtres. Cardinal Swinens, Cardinal Lercaro, connu pour son philo-communisme, Le cardinal Lercaro avait un vicaire général inscrit au Parti communiste, Et enfin, le cardinal Agadjanian, alors lui, je dirais, représentait un peu la fraction traditionnelle, si on peut dire. C'est un homme très discret, très effacé, et par conséquent n'a pas eu de véritable influence sur le Concile. Mais les trois autres, alors, ont mené leur tâche, je vous assure, tambour battant, et réunissaient constamment les cardinaux libéraux, n'est-ce pas ? Ce qui fait qu'il y a eu véritablement une force considérable apportée à la fraction libérale du Concile. Évidemment, les cardinaux traditionalistes et les évêques traditionalistes se sont trouvés déjà à ce moment-là comme plus ou moins mis de côté, méprisés. Quand le cardinal Ottaviani prenait la parole, le pauvre cardinal Ottaviani, aveugle, prenait la parole, eh bien, il avait à peine, s'il ne terminait pas exactement à ces 10 minutes qui lui étaient données, on entendait des remous parmi les jeunes évêques pour le faire taire. Faire comprendre qu'on en avait assez d'entendre le cardinal Ottaviani, il fallait que ça cesse. C'est abominable, affreux. Ce cardinal vénéré, vénérable, vénéré par tout Rome, un saint cardinal qui a eu une influence énorme dans la Sainte Église, préfet du Saint-Office, c'est pas une petite fonction. C'était scandaleux, de voir comment étaient traités ceux qui étaient des traditionalistes. Le cardinal Staffa, qui était très courageux, très, très entreprenant, qui était cardinal après, mais qui était Monseigneur Staffa, très entreprenant, on l'a prié de se taire. La présidence du Concile a prié le cardinal Staffa de se taire. Et des choses comme ça qui sont inimaginables. Alors vous voyez comment s'est passé ce Concile. Et il est évident que toutes les thèses du Concile et tous les textes du Concile ont été influencés par ces cardinaux libéraux et par les commissions libérales. Ce n'est pas étonnant que nous ayons eu des textes ambigus, favorables à des changements, à une véritable révolution dans l'Église. Et alors est venue la révolution dans l'Église. Est-ce que nous avions pu faire quelque chose, nous, la fraction, je dirais, traditionnelle des évêques et des cardinaux? Eh bien, peu de choses en définitive. Nous étions 250. Nous avions réussi à réunir 250 évêques favorables au maintien de la tradition et défavorables à des changements considérables dans l'Église et dans ce faux renouveau, ce faux œcuménisme, fausse collégialité, etc. Nous étions opposés à ces choses-là. Eh bien, ces 250 évêques, évidemment, ont fait un peu de poids, et dans certaines occasions, les textes ont quand même été modifiés, et je dirais que le mal a été un peu limité, mais nous n'avons pas réussi à empêcher certaines thèses de passer. Particulièrement celui de la liberté religieuse, qui a été refait 5 fois. 5 fois, on a refait le texte de la liberté religieuse. Mais 5 fois, la thèse revenait toujours. Alors nous nous opposions toujours, il y a toujours 250 voix contre. Alors le pape Paul VI a fait ajouter 2 petites phrases dans le texte, en disant il n'y a rien dans ce texte qui soit contraire à la tradition de l'Église. Et l'Église demeure toujours la vérité, et elle a vraiment toute la vérité. Alors les évêques espagnols en particulier ont dit, oh bien, puisque le pape a mis ça, maintenant ça n'avait plus de problème, puisqu'il n'y a rien contre la tradition. Si les choses sont contradictoires, si cette petite phrase vient contredire tout ce qui est à l'intérieur du texte, c'est un schéma contradictoire, on ne peut pas accepter ça. Alors il est resté seulement, si je me souviens bien, 74 évêques qui ont été contre. C'est le seul schéma qui a eu une telle opposition. 74 sur 2500. Vous pensez bien que c'était peu de choses. On a donc fini le Concile. Et ne vous étonnez pas alors les réformes qui ont été faites, ayant été victorieux depuis toute l'histoire du libéralisme, les libéraux ayant été victorieux à l'intérieur du Conseil, ils ont eu aussi, ils ont exigé du pape Paul VI les places dans les congrégations romaines. Et de fait, les places importantes ont été données aux progressistes dans les congrégations romaines. Dès qu'un cardinal mourait, ou une occasion quelconque qui permettait au pape Paul VI d'écarter un cardinal traditionnaliste, bien, il mettait immédiatement un libéral à la place. C'est ainsi que Rome s'est trouvée occupée par les libéraux. C'est un fait, on peut le nier. Et que les réformes qui sont sorties du Concile ont été des réformes qui respirent cet esprit d'œcuménisme, qui est en définitive un esprit protestant, ni plus ni moins. La réforme la plus grave, c'est évident que la réforme la plus grave a été celle de la réforme liturgique. Elle a été opérée, vous le savez bien, par un prêtre, un père bien connu, Pugnini, qui avait préparé ça longtemps d'avant. Déjà en 1955, le père Pugnini faisait traduire les textes protestants, du culte protestant, car il ne connaissait pas l'allemand. Il les faisait traduire par le monseigneur Pintonello, aumônier général des armées italiennes, qui avait passé beaucoup de temps en Allemagne pendant l'occupation, et qui traduisait les textes, c'est monseigneur Pintonello qui me l'a dit à moi-même, traduisait les textes des livres liturgiques protestants pour le père Pugnini, qui n'était rien à ce moment-là, qui était un petit membre de la commission, d'une commission de liturgie, mais qui n'était rien. Et après, il est allé au Latran, il a été professeur de liturgie au Latran. Le pape Jean XXIII l'a fait partir du Latran, pour son modernisme, pour son progressisme, le pape Jean XXIII. Eh bien, il s'est retrouvé président de la commission de la réforme de la liturgie. Inouï, c'est invraisemblable. Et j'ai eu l'occasion de constater moi-même ce qu'était l'influence de ce père Pugnini. On se demande vraiment comment une chose comme celle-là peut se passer à Rome. Nous étions, donc j'étais en ce temps-là, tout de suite après le concile, supérieur général de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, et nous avions une association des supérieurs généraux à Rome, et nous avons demandé au père Pugnini de nous expliquer ce qu'était sa nouvelle messe, parce qu'enfin tout de même, ce n'était pas un petit événement. Voilà qu'après le concile, tout de suite, on entend parler messe normative, messe nouvelle, novus ordo. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On n'a pas parlé de ça dans le concile. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons avoir? Alors nous avons demandé au père Pugnini lui-même de bien vouloir expliquer aux supérieurs généraux qui se sont réunis à 84 supérieurs généraux, dont j'étais, par conséquent, je me suis trouvé dans la réunion. Et le père Pugnini, avec beaucoup de bonhomie, nous a expliqué ce que c'est que sa messe normative. On va changer ça, on va mettre un autre offertoire, on pourra choisir les canons, on pourra diminuer les prières de la communion, on pourra avoir plusieurs schémas pour le début de la messe, on pourra dire la messe en langue vernaculaire, on pourra... Sans sauvegarder, on ne sait pas. Mais qu'est-ce pas possible? Il parlait absolument comme s'il n'y avait jamais eu une messe dans l'église avant lui. Et sa messe normative comme une invention nouvelle, quelque chose qui est inventé. Personnellement, j'étais bouleversé, et j'ai tellement été bouleversé, alors que d'habitude, je prends facilement la parole pour m'opposer à ceux pour avec lesquels je ne suis pas d'accord. Derrière, j'ai été muet, je ne pouvais pas sortir un mot, tellement c'est pas possible que ce soit cet homme-là qui est devant moi, à qui est confié la réforme, toute la réforme de notre liturgie catholique, de notre saint sacrifice, de la messe, des sacrements, des bréviaires, de toutes nos prières. Mon Dieu, où allons-nous? Où va l'Église? Alors deux parmi les supérieurs généraux ont eu le courage de se lever. Vous avez tellement parlé de participation des fidèles. Participation active, est-ce que c'est une participation corporelle, c'est-à-dire par des prières vocales, ou bien est-ce que c'est la participation spirituelle? Enfin, en tout cas, vous avez tellement parlé de participation des fidèles qu'il semble que vous ne justifiez plus la messe sans fidèles. Qu'est-ce que signifie pour vous une messe sans fidèles, puisque toute votre messe a été faite en fonction de la participation des fidèles? Alors nous, bénédictins, nous n'avons pas de fidèles à nos messes. Nos messes sont dites sans fidèles. Alors, est-ce que nous devons continuer à dire nos messes privées, puisque nous n'avons pas de fidèles qui participent? Alors, je vous répète exactement ce qu'a dit le Père Bouni. Je l'ai encore dans les oreilles, je vous assure. Ça m'a tellement frappé. Mais à vrai dire, on n'y a pas pensé. À vrai dire, on n'y a pas pensé, il a dit. Vraisemblable. Après, un autre s'est levé, je ne me souviens plus quel est le supérieur général qui s'est levé. Il a dit, mais révérend père, vous avez parlé, on va supprimer ceci, on va supprimer ça, on va supprimer ça, on va remplacer ça par ceci, par cela. C'est toujours des prières plus courtes, c'est toujours un peu plus court. J'ai l'impression que votre nouvelle messe, on va la dire en 12 minutes, 10 minutes, 12 minutes, ça va être fini. C'est quand même un peu exagéré, quand même. Il faudrait quand même un peu que cette cérémonie, quand même, la messe, c'est quand même quelque chose d'important. 10 minutes, un petit quart d'heure, c'est quand même pas, c'est pas raisonnable, c'est pas respectueux pour un tel acte de l'Église. Eh bien, il a répondu ceci. Oh, on pourra toujours ajouter quelque chose. Voilà ce qu'il a dit. On pourra toujours ajouter quelque chose. Oui, c'est sérieux. Ça, j'ai entendu moi-même. Si c'était quelqu'un qui me l'avait raconté, j'aurais presque douté de sa parole. Mais là, c'est moi qui l'ai entendu moi-même. Après, au moment où cette messe normative a commencé à se réaliser, j'étais tellement épouvanté, nous avons fait une petite réunion avec quelques prêtres, quelques théologiens, dont est sorti ce bref examen critique qui a été porté au cardinal Ottaviani. Je présidais la réunion, cette petite réunion, cette petite commission. Mais on s'est dit, il faut aller trouver des cardinaux. On ne peut pas laisser ça. Ça va passer, on n'arrivera pas à l'empêcher. Alors je suis allé trouver moi-même le secrétaire d'État, le cardinal Cicognani. Et je lui ai dit, éminent, vous n'allez pas laisser passer ça, c'est pas possible. Cette messe nouvelle, mais qu'est-ce que c'est que cette messe nouvelle? Voyons, c'est une révolution dans l'Église, une révolution dans la liturgie. Eh bien, je vous dis, l'attitude qu'a eue le cardinal Cicognani, secrétaire d'État, à ce moment-là, du pape Paul VI, il s'est pris la tête dans les mains et il m'a dit, oh, Monseigneur, je sais bien, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que je peux faire? À moi-même, alors, mais ils ont répondu à quelqu'un qui me l'aurait dit. Eh bien, à vrai dire, je ne l'ai pas lu. J'ai signé sans lire. Évidemment, si le père Bounini était vraiment, avait une telle influence sur lui, il lui disait, très Saint-Père, vous pouvez signer, vous avez bien regardé, c'est bien juste, vous avez bien fait attention, etc., je peux signer. Oui, vous pouvez signer. Il a signé, c'est parti. Et c'est pas passé au Saint-Office. Et ça, je le sais par le cardinal Sepper lui-même, qui a dit qu'il était absent lorsque le nouvel ordo a été édité et que ça n'était pas passé par le Saint-Office. Donc c'est le père Bounini qui a vraiment eu cette signature, je dirais, qui a peut-être contraint, nous ne savons pas, mais qui avait certainement une influence sur le Saint-Père extraordinaire. Troisième fait... dont je suis témoin moi-même, à propos du père Bounini. À l'occasion de la permission qui allait se donner, qui était en train de se donner, on parlait de la communion dans la main. Encore une chose horrible, je dis, je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas. Il faut que j'aille voir le cardinal préfet de la congrégation du culte. C'était le cardinal Guth. Je monte pour voir à Rome, pour voir le cardinal Guth, qui me reçoit très gentiment, très aimablement, immédiatement, et qui me dit, je vais faire venir mon second, l'archevêque Antonini, afin qu'il puisse vous écouter et entendre ce que vous dites. Et nous avons parlé. J'ai dit, mais écoutez, vous qui êtes responsable de la congrégation du culte,
Vous n'allez pas laisser paraître ce décret. Communion dans la main, mais imaginez tous les sacrilèges que ça va représenter. Imaginez le manque de respect de la Sainte Eucharistie qui va se répandre dans toute l'Église. C'est inadmissible. Vous ne pouvez pas laisser faire une chose pareille. Et d'ailleurs, déjà maintenant, les prêtres, n'est-ce pas, commencent à donner déjà la communion de cette manière. Il faut arrêter ça immédiatement. Et puis, avec cette nouvelle messe, maintenant, ils prennent toujours le petit canon, le deuxième canon, très court, très bref. À propos là, le cardinal Guth a dit à Mgr Antonini, « Voyez, je l'avais dit. J'avais dit que ça arriverait. J'avais dit que les prêtres prendraient le canon plus court pour aller plus vite, pour en finir plus vite avec la messe. Je l'avais dit. J'avais dit. » Alors après, le cardinal Guth me dit, « Monseigneur, si on me demande mon avis, car je ne suis pas certain qu'on me demandera mon avis. » Quand il disait « on », c'était le pape, évidemment, puisque personne n'était au-dessus de lui que le pape. Donc, si le pape me demande mon avis, et je ne suis pas sûr qu'il me le demandera, au préfet de la congrégation du culte, chargé donc de tout ce qui se paraît au sujet du culte, je me mettrai à genoux, Monseigneur, devant le pape, et je lui dirai, très saint père, ne faites pas cela, ne signez pas ce décret, je me mettrai à genoux, Monseigneur, mais je ne sais pas s'il me demandera. Car, vous savez, celui qui commande ici, ce n'est pas moi qui commande ici. Ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Et évidemment, il faisait allusion à Bounini, qui était le troisième dans la congrégation de la Guth. Il y avait cardinal Guth, l'archevêque Antonini et le père Bounini, président de la commission de la liturgie. Il a dit, ce n'est pas moi qui commande ici. Écoutez, il faut avoir entendu ça pour comprendre aussi mon attitude. On me dit, vous êtes un dissident, vous êtes un désobéissant, vous êtes un rebelle, vous êtes... Mais oui, je suis un rebelle, mais oui, je suis un dissident, mais oui, je suis un désobéissant. À ces gens-là, des Bounini. Bien sûr que je suis désobéissant à ces gens-là. C'est des gens qui sont infiltrés dans l'Église pour détruire l'Église, c'est clair. C'est pas possible autrement, voyons. C'est pas possible. Alors, on va contribuer à la destruction de l'Église. On va dire oui, amen, même si c'est l'ennemi qui est pénétré jusqu'auprès du Saint-Père et qui peut faire signer au Saint-Père ce qu'il lui veut. Quelle pression, nous n'en savons rien. Là, il y a des choses cachées qui nous échappent, évidemment. Alors, certains disent, c'est la franc-maçonnerie. C'est possible, moi j'en sais rien. Je ne vais pas vous dire que je suis renseigné là-dessus, j'en sais rien. C'est possible, c'est des choses possibles. En tout cas, il y a quelque chose, un mystère là derrière. Comment un père, qui n'est même pas cardinal, qui n'est même pas monseigneur, qui n'est un père, tout jeune, encore très jeune à ce moment-là, qui est monté contre la volonté du pape Jean XXIII, parce que le pape Jean XXIII l'avait chassé de l'université du Latran. Qui est monté, qui est arrivé au sommet et qui se moque du cardinal secrétaire d'État, qui se moque du cardinal Guth, préfet de la conversion, qui va directement chez le Saint-Père, qui lui fait signer ce qu'il veut. Ça va plus, ça. C'est plus l'Église, ça. C'est pas l'Église, ça. On n'a jamais vu une chose pareille dans la Sainte Église. Tout passe toujours par les autorités, c'est étudié, on fait des commissions, on étudie les choses. Et là, tout puissant, ce bonhomme-là, tout puissant. C'est lui qui a fait venir les protestants pour changer notre messe. C'est lui. C'est lui qui a fait venir ces pasteurs protestants. C'est pas le cardinal Guth, c'est pas le cardinal secrétaire d'État, et c'est peut-être pas le pape. C'est lui. Quel est cet homme que Bounini, un jour, celui qui l'a précédé comme président de la commission de la liturgie. L'ancien abbé de Saint-Paul-Orlémur, bénédictin. M'a dit, Monseigneur, ne me parlez pas du père Bounini, j'en sais trop sur lui, ne me demandez pas ce qu'il est. J'ai dit, mais dites-moi, qu'on sache, il faut que les choses se découvrent, je ne puis pas vous parler de celui. Celui qui lui a précédé et qui était évêque de Saint-Paul-Orlémur, d'abbé bénédictin, et qui était président de la commission de liturgie avant Bounini, donc il le connaissait bien. C'est probablement lui qui avait demandé au pape Jean XXIII de le faire partir de l'université du Latran. Alors tout cet ensemble de choses nous disent non, l'ennemi a pénétré à l'intérieur de l'Église, comme le disait Saint Pie X, il est dans les plus hauts sommets, comme le dit Notre-Dame de la Salette, et comme l'a dit peut-être, je ne sais pas, mais enfin au moins Notre-Dame de la Salette, peut-être Notre-Dame de Fatima aussi. Eh bien, si vraiment l'ennemi est à l'intérieur de l'Église, est-ce qu'il faut lui obéir? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Il représente le pape. Il représente le pape, nous n'en savons d'abord rien. Nous ne savons pas exactement ce que pense le pape. C'est possible que le pape soit plutôt favorable, vraisemblablement. Mais là aussi, j'ai tout de même des preuves personnelles que le Saint-Père a été très influencé par le cardinal Villot. On a dit le cardinal Villot franc-maçon aussi, moi j'en sais rien non plus, Il y a eu des choses, on a photocopié des lettres de franc-maçon au cardinal Villot. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, le cardinal Villot avait une influence considérable sur le pape. Il a réuni dans ses mains tout le pouvoir à Rome. Il était devenu le maître bien plus que le pape. Tout passait par ses mains. Et ça, je le sais. Je suis allé voir un jour le cardinal Wright pour le catéchisme canadien, précisément. Et j'ai dit au cardinal Wright, regardez ce catéchisme canadien. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ces petits livres que vous avez, ou que vous avez eu, je ne sais pas, intitulé Rupture. C'est abominable. Rupture, c'est-à-dire on enseigne aux enfants à rompre. Il faut rompre avec la famille. Il faut rompre avec la société. Il faut rompre avec la tradition. Voilà le catéchisme qu'on enseigne aux enfants. J'ai montré ça au cardinal Reich. J'ai dit, maintenant, écoutez, voilà 3-4 petits volumes avec l'imprimatur de Mgr Coudert. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants du Canada. Vous êtes d'accord? C'est vous qui êtes chargé des catéchismes du monde entier. Vous êtes d'accord avec ce catéchisme? Alors, il m'a dit, non, il n'est pas catholique, ce catéchisme. Ben, alors, s'il n'est pas catholique, dites tout de suite à l'Assemblée des évêques du Canada d'arrêter de jeter ce catéchisme au feu et puis de prendre des vrais catéchismes. Oh, comment voulez-vous que je m'oppose à une conférence épiscopale? Ah ben, je dis, alors c'est fini. Il n'y a plus l'autorité dans l'Église. C'est terminé. Si Rome ne peut plus rien dire à une conférence épiscopale, même si cette conférence épiscopale est en train de détruire la foi chez les enfants, alors c'est la fin de l'Église. Et c'est ça, nous en sommes là maintenant. Ils ont peur à Rome des conférences épiscopales. Alors on dit rien. Et ces conférences épiscopales sont des choses abominables. Actuellement, en France, une campagne se déroule par les évêques de France en faveur de la contraception. Ils ont été embrigadés, je pense, par le gouvernement socialiste, qui maintenant fait passer à la télévision constamment ce slogan « Prenez la pilule pour empêcher l'avortement ». Et voilà. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Alors, ils font une propagande insensée en faveur de la pilule. Les enfants, jusqu'à 12 ans, la pilule est remboursée. Pour des petites fillettes de 12 ans, tout est remboursé tout pour la pilule, afin d'éviter l'avortement. Et les évêques marchent avec. J'ai reçu dans le bulletin diocésain du diocèse de Tulle, qui est mon ancien diocèse en France, je reçois toujours le bulletin diocésain. Dans le bulletin diocésain, il y avait des documents officiels en faveur de la contraception. Par l'évêque Mgr Bruno, ancien supérieur général des pères de Sulpiciens, un des meilleurs évêques de France. Ben oui, comme ça. Nous en sommes là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire, ah, vous devez obéir. Non, si vous êtes un désobéissant, vous n'avez pas le droit de continuer ce que vous faites, vous divisez l'Église, etc. Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'un décret? Qu'est-ce qui nous oblige à l'obéissance? Une loi. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est dit Saint Léon XIII, ordinatio, rationis ad bonum commune. Une ordonnance de la raison, de l'intelligence, pour le bien commun, ad bonum commune, mais pas pour le mal commun, pour le bien. Alors s'il est évident que c'est pour le mal, c'est plus une loi. C'est ce que dit Saint Léon XIII explicitement dans son encyclique Libertas. Disait ça dans son encyclique Libertas, il dit, une loi qui n'est pas pour le bien commun n'est plus une loi, et on ne doit pas lui obéir. Alors si une loi tirée par force par le père Bonigny, si c'est une loi d'abord, alors quand on discute, beaucoup de canonistes à Rome même disent que ce n'est pas une loi, il n'y a pas eu de loi pour la nouvelle messe, il n'y a pas eu de loi. C'est simplement une autorisation, une permission de dire la nouvelle messe. Mais il n'y a pas eu de loi. Bon, admettons même qu'il y ait eu une loi. Cette loi ne vaut rien. Même si elle vient de Rome, ordination rationnée, cette bonum commune, et pas au mal commun, au bien commun. Or, cette messe est en train de détruire l'Église, détruire la foi. Bah, c'est clair, c'est évident. Votre archevêque l'a dit ici à Montréal, Grégoire, Monseigneur Grégoire. Il l'a dit dans une lettre qui a paru, il était très courageux, c'est l'un des rares évêques qui ait eu le courage de dire cela. Il y a un an à peu près, je crois, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas dire exactement, mais il a fait une lettre dans laquelle il a dénoncé les maux dont souffrait l'Église de Montréal actuellement, et il a dit « Beaucoup de nos fidèles abandonnent les paroisses. Nous sommes désolés de voir l'abandon des paroisses par un grand nombre de fidèles. Et nous attribuons cela en grande partie à la réforme liturgique. » Il a eu le courage de dire ça. C'est évident. C'est évident. Alors voyez-vous, nous trouvons devant une véritable conjuration à l'intérieur de l'Église. Les cardinaux actuels, comme le cardinal Knox qui a fait cette fameuse enquête sur la messe latine et sur la messe de Saint-Pie V, tout ça dans le monde entier, c'est un mensonge clair et évident pour influencer le pape Jean-Paul II, afin que le pape Jean-Paul II dise « Oh, alors, si ce n'est que ça, ceux qui veulent la tradition, bon, n'en parlons pas, ça va tomber de soi, ça ne vaut rien, n'en parlons plus, c'est terminé. » Alors que le pape Jean-Paul II était, lorsque je l'ai vu en audience en novembre 1978, il était prêt à signer un acte comme quoi la messe était libre, que les prêtres pouvaient dire la messe, aussi bien la messe traditionnelle que la messe nouvelle, qu'ils étaient libres de choisir la messe qu'ils désiraient. Alors, il était prêt à faire ça. Mais il y a à Rome encore un groupe de cardinaux qui est farouchement opposé à la tradition et qui tiennent leur place. Le cardinal Casaroli, secrétaire d'État, le cardinal Pironio, préfet de la Congrégation des religieux, le cardinal Baggio, préfet de la Congrégation des évêques, très important, c'est lui qui fait la nomination des évêques, Baggio, très libéral, le cardinal Poletti, vicaire de Rome, très libéral également. Et puis le fameux Virgilio Levi, qui est le second de la congrégation du culte actuellement, et qui est peut-être pire que Bonini, à la congrégation des cultes. Et puis Hammer, le second du Saint-Office, Monseigneur Hammer, archevêque belge originaire de la région de Louvain, imbu de toutes ces idées modernistes de Louvain, qui est farouchement, ils sont farouchement opposés, ils ne peuvent pas entendre parler de la tradition, ils voient rouge. Je crois que s'ils pouvaient m'assassiner, ils le feraient. S'ils pouvaient m'étouffer, ils le feraient. Parce que dès qu'ils savent que je fais un effort auprès du Saint-Père pour essayer d'obtenir cette liberté de la tradition, qu'on nous laisse la paix, qu'on nous laisse prier comme on a prié pendant des siècles, qu'on nous laisse continuer ce qu'on m'a appris au séminaire, ce qu'on vous a appris lorsque vous étiez jeune, qu'on vous laisse. Si on a estimé que c'était la meilleure manière de se sanctifier, on nous a appris ça au séminaire, j'ai pratiqué ça pendant que j'étais prêtre, pendant que j'étais évêque, j'ai moi-même dit à tous mes prêtres et à tous mes séminaristes, voilà ce qu'il faut faire pour devenir saint, aimer le Saint-Sacrifice de la messe, peut-être qu'il vous est donné par l'Église, les sacrements, le catéchisme, surtout ne changez rien, gardez la tradition qui dure depuis 20 siècles, c'est ça qui nous sanctifie, c'est ça qui a sanctifié les saints. Tout d'un coup, il faut tout changer. Pas possible, ça, qu'on nous laisse au moins la liberté. Eh bien, évidemment, quand ils entendent cela, immédiatement, ils vont chez le Saint-Père, ils lui disent, rien pour Monseigneur Lefebvre, rien pour la tradition, ne revenez pas en arrière, surtout ne revenez pas en arrière. Alors, comme ils sont des cardinaux très importants, cardinal Casaroli, le secrétaire d'État, et puis les autres, qui ont des influences importantes, le pape n'ose pas. Le pape, il n'ose pas. Il y a quelques cardinaux qui seraient plutôt en faveur d'un règlement favorable, comme le cardinal, maintenant, heureusement, le cardinal Ratzinger, peut-être que le cardinal Ratzinger, qui a remplacé le cardinal Seppert, qui est mort, à Noël, le cardinal Ratzinger, qui pourtant était très libéral au temps du concile, c'était un ami de Ranner, de Hanskuhl, de Schielbeck, mais à l'occasion de sa nomination à Munich, je ne sais pas si le fait d'être archevêque d'un diocèse lui a ouvert un peu les yeux, Mais il est certainement maintenant beaucoup plus conscient du danger qu'ont des réformes et beaucoup plus désireux de revenir à des normes enfin plus traditionnelles. Avec le cardinal Palazzini, qui est chargé de la congrégation des béatifications, et le cardinal Audi, chargé de la congrégation du clergé. Les trois cardinaux, là, je dirais, seraient désireux de laisser la liberté et d'arriver à influencer le Saint-Père. Mais les autres ont encore beaucoup plus d'influence sur le Saint-Père, et c'est très difficile actuellement. Je ne vois pas que nous puissions obtenir tout de suite. J'étais à Rome il y a 5 semaines, voir le cardinal Ratzinger, qui est nommé par le pape pour remplacer le cardinal Seppert auprès de la fraternité, auprès de moi-même, comme intermédiaire personnel du Saint-Père. Le cardinal Seppert qui avait été nommé à l'occasion de mon audience, qui avait fait venir le cardinal Seppert, le pape Jean-Paul II, il avait dit, eh bien, Père Éminent, c'est vous qui entretiendrez les relations avec Mgr Lefebvre entre moi-même, et vous serez mon intermédiaire entre Mgr Lefebvre et moi-même. Et maintenant, il a nommé le cardinal Ratzinger. Alors, je suis allé le voir, j'ai parlé pendant 1h15 avec Mgr cardinal Ratzinger, et certainement, le cardinal Ratzinger semble beaucoup plus positif et beaucoup plus capable de nous faire arriver à une bonne solution. La seule difficulté, voyez-vous, actuellement, qui demeure assez aiguë, c'est la messe. C'est la messe. Ça a toujours été la messe, en définitive, depuis le début. C'est la messe. Parce qu'ils savent très bien que je ne suis pas contre le concile pour être contre le concile. Il y a des choses que je n'accepte pas dans le concile. Je n'ai pas signé le schéma de la liberté religieuse, je n'ai pas signé le schéma de l'Église dans le monde. Ça, c'est d'accord, mais je ne suis pas à dire que je suis contre le concile en lui-même. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans le concile, moi je sais qu'on ne peut pas accepter, qui sont contraires à la tradition. Mais ça ne les gêne pas tellement, puisque le pape lui-même a dit qu'il faut voir le concile à la lumière de la tradition. Si vous voyez le concile, la lumière de la tradition, moi ça ne me dérange pas, je veux bien signer cette phrase-là, parce que tout ce qui est contraire à la tradition est rejeté, évidemment, alors je veux bien signer. Le pape m'a demandé dans l'audience, alors vous êtes prêt à signer cette formule? Je dis, c'est vous-même qui l'avez dit cette formule, et moi je ne suis pas à la signer, j'ai toujours été prêt. Ah, ben alors il n'y a pas de difficulté dogmatique entre nous. Ben, j'ai dit, j'espère bien. Et puis maintenant, alors qu'est-ce qui reste? Puisque vous acceptez le pape, je dis bien sûr, je reconnais le pape, et nous prions pour le pape dans tous nos séminaires. Nous sommes peut-être les seuls séminaires dans le monde entier où on prie encore pour le pape. Et puis, nous avons beaucoup de respect pour le pape. J'ai toujours eu beaucoup de respect. Quand le pape m'a demandé de venir, je suis toujours venu. J'ai toujours obéi aux ordres du Saint-Père pour venir à Rome. Mais il y a la question de la liturgie, je dis. La question de la liturgie est vraiment difficile. Parce que c'est la liturgie qui est en train de démolir l'Église et qui démolit les séminaires. Alors, c'est une chose très importante. Il m'a dit, mais non, c'est une question disciplinaire, ce n'est pas très grave. Oh, s'il n'y a plus que cela, je crois que ça, on peut arranger, ça peut s'arranger. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, si le cardinal Seppert qui est venu, car il a appelé le cardinal Seppert, il a téléphoné au cardinal Seppert qui était prêt, il est venu immédiatement. Si le cardinal Seppert n'était pas venu, je crois qu'il signait. Il aurait signé ça. Mais le cardinal Seppert est arrivé et le pape lui a dit, mais écoutez, je crois que les choses sont pas si difficiles à arranger avec Mgr Lefebvre, je crois qu'on pourrait arriver à une solution, etc. Il n'y a plus que la question de la liturgie qui est un peu difficile. Ah, il ne faut pas accorder rien à Mgr Lefebvre, n'accordez rien. Ils font de cette messe, de la messe de Saint-Pie-V, ils en font un drapeau. Un drapeau. Bien sûr, c'est le drapeau de notre foi, la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est le Mysterium Fidei, c'est le grand mystère de notre foi. C'est clair que c'est notre drapeau, que c'est notre foi, c'est tout ce qui est l'expression de notre foi. Mais veut dire un drapeau, c'est-à-dire que nous partons en combat et en lutte contre tous ceux qui n'acceptent pas la messe actuellement. Nous n'en faisons pas un drapeau à ce point-là, nous ne pouvons pas porter en combat. Mais ça a beaucoup impressionné le Saint-Père. Beaucoup impressionné de Saint-Père. Et Saint-Père a paru changé presque immédiatement. Ça montrait, à mon sens, voyez-vous, que le Saint-Père n'est pas un homme fort, comme on le croit. S'il avait été un homme fort, il aurait dit, écoutez, c'est moi qui vais voir ça, on va arranger ça, etc. Non, il a eu peur, comme prenait devenu craintif, Et au moment où il partait, il sortait de son bureau, il a dit au garde de ses pères, écoutez, vous pouvez déjà parler maintenant, vous pourriez déjà essayer d'arranger les choses avec Monseigneur Lefebvre, etc. Vous pouvez rester ici, moi je suis obligé d'aller voir le cardinal Baggio, qui a énormément de dossiers à me montrer au sujet des évêques, il faut que je parte, il faut que je parte. Et en partant, il m'a dit, arrêtez, Monseigneur Lefebvre, arrêtez, arrêtez. Il était transformé. En l'espace de quelques minutes, c'est dans cette audience que je lui ai montré une lettre d'un évêque polonais. Un évêque polonais m'avait écrit un an avant pour me dire qu'il me félicitait de l'œuvre que je faisais à Écône, que ses décès prêtres que je faisais, et qu'il ne souhaitait que je maintienne la messe ancienne et toute la tradition dans la liturgie. Et il ajoutait, je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs évêques à vous admirer et admirer votre séminaire, la formation que vous donnez à vos prêtres et la tradition que vous maintenez dans l'Église, parce que on nous oblige à prendre la nouvelle liturgie pour faire perdre la foi à nos fidèles. Voilà ce que disait un évêque polonais. Alors j'ai pris cette lettre dans ma poche quand je suis allé voir le Saint-Père, parce que je me suis dit, je suis sûr que le Saint-Père va me parler de la Pologne. Et ça n'a pas manqué. Le Saint-Père a dit, mais vous savez, en Pologne, ça va très bien. Pourquoi vous n'acceptez pas les réformes? Et en Pologne, on a accepté les réformes, il n'y a pas de problème. On regrette seulement le latin. Oui, nous étions très attachés au latin parce que ça nous attachait à Rome et nous sommes très romains. Alors ça, vraiment, c'est regrettable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a plus de latin, ni dans les séminaires, ni dans le bréviaire, ni dans la messe. Il n'y a plus de latin, c'est bien malheureux, mais enfin, c'est comme ça. Mais on a pris la nouvelle mère, on a pris les réformes, ça ne pose pas de problème. Nos séminaires sont pleins, nos églises sont pleines. Alors, les très Saint-Père, vous permettez que je vous montre une lettre que j'ai reçue de Pologne. Alors, je vais vous présenter la lettre. Il a vu. Quand il a vu le nom de l'évêque, il a dit, oh, c'est le pire ennemi des communistes. Ah, ben, c'est une bonne référence. Bonne référence. Et le pire ennemi... Et alors le Saint-Père a lu attentivement, évidemment, je regardais un peu son visage pour voir quelle était sa réaction devant ces paroles dites deux fois dans la lettre, on nous oblige à prendre la réforme liturgique pour faire perdre la foi à nos fidèles. Ça évidemment, ça passait un peu difficilement pour le Saint-Père. Puis à la fin, il m'a dit, ben vous avez reçu cette lettre comme ça. J'ai dit oui, j'ai reçu comme ça, c'est une photocopie que je vous porte. Oui, j'ai reçu comme ça. Oh, ça doit être un faux. Ça doit être un faux. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne pouvais plus rien répondre, évidemment. Moi, je ne sais pas. C'est un faux. Je dis, vous savez, les communistes sont très habiles pour essayer de provoquer des divisions dans les épiscopats, etc. Alors, ça doit être, d'après lui, ce serait une lettre fabriquée par les communistes et envoyée-moi. Mais personnellement, j'en doute fort. Parce que cette lettre a été postée en Autriche, et donc je suppose que l'évêque a eu peur qu'elle soit mainmise sur sa lettre par les communistes, et qu'elle n'arrive pas. Et alors elle a été postée en Autriche. Je lui ai répondu, mais je n'ai jamais eu de réponse, je ne sais pas si l'évêque... C'est pour vous dire quand même que je pense qu'il y a aussi en Pologne une des divisions. Il y a des divisions, je vous assure, profondes en Pologne. D'ailleurs, il y en a toujours eu entre les prêtres de la paix et les prêtres qui veulent garder la tradition. C'est tragique, tragique derrière le rideau de fer. Tragique. Lisez le livre Moscou et le Vatican du père jésuite Lepidi. Lisez ce livre. Il est extraordinaire. Il montre que l'influence que les communistes ont à Rome et qu'ils arrivent à faire nommer des évêques. Et en particulier même deux cardinaux, le cardinal Lecaille et le cardinal Tomasek, cardinal Lecaille, successeur du cardinal Milsensti, le cardinal Tomasek, successeur du cardinal Beran, qui étaient des héros de la foi, des martyrs, vrais martyrs. Bien, à leur place, on a mis des prêtres de la paix, comme cardinaux. Donc des gens qui sont décidés avant tout de s'entendre avec le gouvernement communiste et qui persécutent les prêtres traditionnalistes. Des prêtres qui, secrètement, iront baptiser quelqu'un dans la campagne ou faire du catéchisme, secrètement, pour continuer leur œuvre de pasteur de l'Église catholique, sont poursuivis par ces évêques en disant vous devez respecter les règlements communistes. Vous n'avez pas le droit de ne pas respecter les règlements du gouvernement communiste. Vous faites du tort, vous nous faites du tort si vous faites ça. Et ces prêtres sont prêts à donner leur vie pour garder la foi des enfants, pour garder la foi dans les familles, pour donner les sacrements à des personnes qui ont besoin des sacrements. Parce qu'évidemment, là-bas, dans ces pays-là, il faut toujours demander des autorisations. S'ils vont porter le Saint-Sacrement à l'hôpital, s'ils vont faire n'importe quoi, dès qu'ils sortent de leur sacristie, ils sont obligés de demander au Parti communiste s'ils les autorisent à faire ceci ou cela. C'est impossible. Les gens meurent sans sacrement, les enfants sont plus éduqués chrétiennement. Alors ils font ça, bien sûr, en cachette. Eh bien, s'ils sont pris, c'est les évêques eux-mêmes qui les poursuivent. C'est effrayant. Ce n'est pas le cardinal Wyszyński, ni le cardinal Slippy, ni le cardinal Milczynski, ni le cardinal Behrendt qui auraient fait des choses comme ça. Eux, au contraire, ils poussaient les bons prêtres en disant « Allez-y, allez-y, si vous êtes en prison, vous serez en prison, vous aurez fait votre devoir de prêtre, votre devoir. Si vous êtes martyr, vous serez martyr. » Et là, alors, ça montre, vous voyez l'influence, les influences qui jouent à Rome. C'est difficile pour vous, je pense, difficile pour vous, difficile pour tous les fidèles du monde entier de se rendre, de se... compte de ce qui s'est passé et de ce qui se passe à Rome. On ne peut pas croire. C'est pénible. Moi, je n'ai jamais été contre le pape. Je n'ai jamais dit que le pape n'était pas pape. Et je suis absolument pour le pape, en sens, comme pour le successeur de Pierre. Je ne veux pas me séparer de Rome. Je ne veux pas me séparer du pape. Mais je suis contre le modernisme, contre le progressisme, contre toute cette influence mauvaise, néfaste du protestantisme dans nos réformes, et contre toutes ces réformes qui nous empoisonnent et qui empoisonnent la foi des fidèles. Alors on dit, mais vous êtes contre le pape. Mais je ne suis pas contre le pape. Je viens au contraire au secours du pape, car le pape ne peut pas être moderniste, le pape ne peut pas être progressiste. Même s'il laisse faire, c'est de la faiblesse, ça peut arriver. Saint-Pierre avait été faible aussi devant Saint-Paul vis-à-vis des Juifs. Et Saint-Paul lui a reproché durement, « Vous ne marchez pas selon l'Évangile », a dit Saint-Paul à Saint-Pierre. Il était pape, Saint-Pierre. Saint-Paul lui a reproché, et il le dit avec vigueur, « J'ai reproché au chef de l'Église qu'il ne marchait pas selon la loi de l'Évangile. » C'est grave de dire ça au pape. Sainte Catherine de Sienne aussi a fait des reproches véhéments à des papes. Mais nous, nous avons la même attitude. Disons, « Très Saint-Père, vous ne faites pas votre devoir. » Vous devriez revenir à la tradition si vous voulez que l'Église refleurisse. Si vous laissez persécuter la tradition, sans doute il ne veut pas lui-même, si vous laissez persécuter par la tradition, par tous ces cardinaux, par tous ces évêques qui sont modernistes, vous allez faire la ruine de l'Église. Je suis sûr que dans son cœur, le pape est profondément inquiet, et qu'il cherche un moyen de renouveler l'Église. Et j'espère qu'avec vos prières, avec vos sacrifices, avec les prières de tous ceux qui comprennent la Sainte Église, qui aiment la Sainte Église, qui aiment le Pape, que je suis sûr que nous arriverons. Et puis surtout avec la dévotion à la Très Sainte Vierge. Si nous prions la Très Sainte Vierge, la Très Sainte Vierge ne peut pas abandonner son Fils, ne peut pas abandonner l'Église que son Fils a fondée, l'épouse mystique de son Fils. Alors je suis sûr que nous arriverons. Ce sera un miracle, évidemment, ce sera difficile, que nous arriverons. Mais pour moi, je ne peux pas non plus qu'on me fasse dire que cette messe est bonne et que cette messe est simplement moins bonne que l'autre, mais qu'elle est bonne. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que ces sacrements sont bons. Ils ont été faits par les protestants. Ils ont été faits par Bonini. Et Bonini lui-même a dit, hein, 19 mars 1965, vous pouvez trouver dans l'Osservatore Romano et dans la documentation catholique, vous trouvez la traduction de ce discours de Bonini, nous devons enlever de nos prières catholiques et de la liturgie catholique tout ce qui peut être l'ombre d'un achoppement pour nos frères séparés, c'est-à-dire pour les protestants. 19 mars 1965, donc avant toutes les réformes. Voilà l'idée qu'avait ce Bonini. Est-ce que c'est possible que nous allions demander maintenant à toutes nos prières, que nous avons eu le sacrifice de la messe, les sacrements, toutes nos prières, notre catéchisme et tout ça, venir dire aux protestants, en quoi n'êtes-vous pas d'accord? Ah, nous n'aimons pas ça, nous n'aimons pas ça, nous n'aimons pas ça. Bon, on va le supprimer, on va le supprimer, on va le supprimer. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne sera peut-être pas hérétique, mais il n'y aura plus la foi catholique. La foi catholique sera diminuée. C'est comme ça qu'on ne croit plus au limbe, on ne croit plus au purgatoire, on ne croit plus à l'enfer, on ne croit plus au péché originel, on ne croit plus aux anges. Mais oui, ben, c'est fini. On croit plus à la grâce, on parle plus du surnaturel.
Et tout ça, c'est la fin de notre foi.
Alors nous devons maintenir absolument notre foi catholique et prier la très sainte Vierge, parce que par nous-mêmes, c'est une entreprise de géant que nous voulons faire, et sans le secours du bon Dieu, nous n'y arriverons pas.
Moi, je me rends bien compte de ma faiblesse et de mon isolement. Qu'est-ce que je peux faire tout seul devant le pape, devant les cardinaux, devant tout le monde? Je ne sais rien. Je vais comme un pèlerin, avec mon bâton de pèlerin, je vais dire gardez la foi, soyez plutôt martyr que d'abandonner votre foi, c'est tout ce que je peux faire. Et puis dire, pour garder la foi, il faut garder les sacrements et le Saint-Sacrifice de la messe. On ne peut pas dire, quand même, vous savez, si c'est changé, c'est pas trop mal, moi quand même, j'ai bien la foi ancrée, je risque pas de perdre la foi. On s'aperçoit tout doucement, que ceux qui s'habituent à aller à cette nouvelle messe et au nouveau sacrement changent de mentalité. Quelques années après, si vous demandez à quelqu'un qui est allé dans ces nouvelles messes, ces messes œcuméniques, il prend l'esprit œcuménique. C'est-à-dire qu'il finit par mettre toutes les religions sur le même pied. Et si vous lui demandez, mais est-ce qu'on peut se sauver par le protestantisme, est-ce qu'on peut se sauver par le bouddhisme, par l'islam? Bien sûr, mais toutes les religions sont bonnes. Ben voilà, il est libéral, il est protestant, il n'est plus catholique. Catholique. Il y a une religion, il n'y a pas deux religions. Si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et que Dieu a fondé une religion, la religion catholique, il ne peut pas y avoir d'autres religions. C'est pas possible. Les autres religions sont fausses. C'est pour ça que le cardinal Ottaviani disait de la tolérance religieuse. On tolère les erreurs, parce qu'on ne peut pas évidemment empêcher toutes les erreurs des époques, mais on ne les met pas sur le même pied que la vérité. On ne peut pas. Ou alors il n'y a plus d'esprit missionnaire. Si toutes ces religions-là sauvent, pourquoi aller en mission? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les dans leur religion, et puis ils vont tous se sauver. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'a fait l'Église pendant 20 siècles? Pourquoi ces martyrs? Pourquoi tous ceux qui ont été massacrés dans les missions? Pourquoi ici, dans le Grand Nord, tous ceux qui sont partis, tous ces Oblats de Marie qui ont été massacrés? Pourquoi tous ceux qui ont été massacrés par les infidèles, tout ça? Pour rien. Ils ont perdu leur temps, ils ont perdu leur sang, ils ont perdu leur vie. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut rester catholique, et c'est très dangereux de glisser dans l'œcuménisme et de s'en aller vers une religion qui n'est plus la religion catholique. Alors je souhaite vivement que vous soyez ici les témoins de notre Seigneur, les témoins de l'Église catholique, les témoins du pape, les témoins de la catholicité. Même si vous devez être méprisé, même si vous devez être insulté dans les journaux, dans les paroisses, dans les églises, peu importe. Vous êtes les témoins de l'Église catholique, vous êtes les vrais fils de l'Église catholique et les vrais fils de la très sainte Vierge Marie. Je vous remercie de votre attention.